di Bayonne, il est une peña, la peña Bayona. Ils portent fièrement partout leur foulard bleu et blanc. À Daxo, à Narbonne, on ne voit plus que ces gars-là qui ont dans le cœur leur cher joueur du rugby roi. À Jean Daugé ou bien partout à l'extérieur, sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d'ardeur. C'est la Peña qui crie sa joie sur ces terres-là. Allez, allez, c'est la Peña Bayona. On est tous là, allez les gars, encore une fois. Allez, allez, les bleus et blancs de l'aviron bayonnais, jouez au rang, puis écartez, c'est.
Moi j'attendais que Guy chante là.
Oh, alors je peux pas parler. Oui, non, mais là on entend la Peña Bayona, là, mais je suis content parce que nos amis de l'aviron bayonnais, ils se sont. Bon, le match était difficile, mais à Anoeta, du côté de Saint-Sébastien, ça a été chaud, mais ils y sont arrivés quand même.
À souligner pour les auditeurs qui nous écoutent, on avait dit qu'on changerait de jingle.
De jingle, ça n'a pas été fait.
Donc je pense
mais c'est pas grave.
Même Fred. On le fera semaine prochaine.
La semaine prochaine. On lui dira lequel est le bon. Voilà.
Donc le 12, tu sors.
Je pense à rappeler à Guy qu'on va pas parler d'aviron tout de suite, on va parler de kayak.
De kayak,
avec
oui,
notre invité Ronan. Ronan, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Bonjour Ronan et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui nous écoutent?
Oui, avec plaisir. Donc moi c'est Ronan Tastard, je suis salarié du club de canoë et kayak de Libourne, situé au Daguet.
Oui.
Moi je suis salarié depuis juin 2021, mais en fait je suis au club depuis sa création. C'est un jeune club qui a été créé en 2010, qui va fêter ses 16 ans cette année.
Oui.
Et depuis le début, au début comme bénévole, engagé au sein du comité directeur, j'étais président du club pendant plusieurs années. Et après, j'ai eu l'opportunité d'y travailler et d'être encore plus les mains dedans et de faire avancer les choses. Donc, voilà.
Alors, Ronan, moi, la première question qui me vient, elle est peut-être un peu piquante et tu m'excuseras. Oui, on peut se tutoyer ?
Bien sûr, bien sûr.
C'est un peu aussi un débat qu'on a souvent avec Guy, qu'on parle des bénévoles dans les associations et tout. Et là, la première phrase que tu nous dis, salarié. Alors moi, je voudrais savoir, salarié dans une association sportive qui est donc du kayak, en quoi ça consiste et quelles sont tes missions? Parce que salarié, aujourd'hui, on en voit de plus en plus, et c'est aussi pour ça qu'on perd du bénévolat, je trouve ça un peu triste, si tu veux mon avis. Mais du coup, quelles sont tes missions et pourquoi?
Attends, excuse-moi, Roland, je réponds à mon ami Alexis.
Oui.
Il faut dire que le... Bon, parce que avec mes 45 ans de bénévolat dans tous les sports, je peux t'en parler. Le bénévolat, c'est bien, mais heureusement qu'il y a quand même de la professionnalisation.
Oui, mais même alors en maintenant, kayak, c'est pour ça.
Mais oui, mais on est obligé d'en avoir. Mais alors c'est vrai que maintenant, au niveau de l'État, ils voudraient professionnaliser tout de plus en plus. Mais ce que nous demande, enfin moi je sais, j'ai été dirigeant de club trésorier pendant 20 ans d'un club de boxe anglaise à Lormont, du basket, du foot, du hand, etc. On nous en demande, en tant que bénévole, de plus en plus. Mes journées, je l'ai passé, parce que mon club était un gros club, il y avait 200 licenciés, une centaine de gamins, 80, bon, peut-être vous, c'est plus, je ne sais pas, mais j'avais 80 000 euros de budget à gérer à peu près, bon. C'était toute la journée, tous les jours. Et puis t'es obligé d'envoyer des justificatifs, t'es obligé de prouver des choses. Mais tu passes ta vie à être bénévole. Je commençais le matin à 7h30, 8h, je finissais à 17h tous les jours. Et le week-end, en plus, il y avait les compétitions. Et tu, c'est plus du bénévolat, c'est pire que du travail.
Donc justement, alors, en tant que salarié,
ces choses-là, si j'avais été salarié, à la limite, j'accepterais, entre guillemets, de le faire. Mais pas en tant que bénévole.
Justement, quelles sont vos émissions?
Donc voilà. Donc c'était un peu.
En fait, c'est les profs, en tout cas pour nous aussi, hein, mais je pense que c'est pour beaucoup, le cas pour beaucoup d'associations, la professionnalisation, le fait qu'il y ait des salariés, elle vient en complément, vraiment en complément. C'est-à-dire que moi, mes missions, il y a toute une partie administrative qui va permettre de soulager néanmoins les bénévoles pour ne pas les saturer, pour ne pas les user. Sinon, il y a un turnover important. Et les turnovers, il est pas toujours très bon parce que ça veut dire qu'il faut repartir, réexpliquer.
C'est ça.
Et voilà. Et puis après aussi, ça offre, en termes de prestations, des possibilités bien plus importantes. C'est-à-dire que quand on est bénévole, on va venir encadrer notamment, parce que ça reste quand même le cœur de l'activité, encadrer les créneaux, et on va encadrer quand on est disponible. On est rarement disponible le mercredi de 14h à 16h, par exemple, comme moi demain, où je vais encadrer. Ma journée, c'est 14h, 16h, j'encadre un groupe, j'encadre un second groupe de 16 à 18. Ça, j'aurais pas pu le faire. Et par exemple, nous, demain, de 18 à 20h, c'est un encadrant bénévole qui va prendre le relais. Demain, par exemple, on a trois créneaux. Et là, y a deux que je vais prendre en charge. Et c'est pareil le week-end. C'est pareil. Nous, on a des encadrements quasiment toutes les semaines. Donc,
et oui.
Donc ça a vraiment apporté un plus pour soulager. Pas pour remplacer, mais pour soulager. Et puis rassurer aussi. Parce que des fois, c'est se dire, oh non, mais là, moi, bénévole, je m'engage, je vais être président, je vais être trésorier, je vais être secrétaire. Mais la masse de travail va être énorme, c'est de dire non, il y a des salariés pour aider, puis pour développer, bien évidemment. Moi, je travaille donc le club de Libourne, on est deux salariés depuis décembre. Moi, je suis sur la partie entraînement, et on a une personne qui est vraiment en tant qu'agent de développement, Adam, là, qui nous a rejoint en décembre et qui, lui, est en charge de développer pour le grand public.
Oui, et je suppose que toi, tu as les diplômes, tu apportes le côté technique aussi de la discipline aux jeunes.
Que j'avais déjà avant en tant que bénévole, mais sont indispensables pour encadrer. Mais bien évidemment que je n'aurais pas été recruté par le club si je n'avais pas eu ces diplômes. Et donc c'est une garantie aussi de compétences.
De compétences et d'amener les enfants à progresser.
Je crois que c'est normal.
Oui, j'ai une question, parce que là, on parlait de trois séances demain. J'imagine que c'est parce qu'il y a différentes catégories de progression ou d'activité au sein du kayak. Est-ce qu'on arrive à... Enfin, quel est le taux de remplissage des bateaux, j'ai envie de dire, parce que toutes les catégories sont peut-être pas représentées de la même manière.
Alors, attends, excuse-moi, Fred, mais c'était une chose... que je voulais poser comme question à la base, avant de parler de tout ça, parce que ça se rejoint. On n'est pas spécialiste dans ce domaine avec Alexis. Explique-nous un peu exactement ce sport. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend de parler de canoë, kayak. Comment ça se passe?
C'est la grande question de notre sport.
Vous n'êtes pas médiatisé, mis à part pour les JO quand ça arrive. Sinon, on ne connaît pas. Moi, je connaissais, c'est ce que je disais à Fred, je connaissais l'aviron plutôt. Mais le kayak, je ne connais pas. Donc, comment ça se passe? C'est quoi ce sport? Excusez-moi, je me renseigne, je fais mon boulot de journaliste.
En fait, nous, c'est la grande question de notre sport à chaque fois qu'on reçoit des groupes, c'est d'abord d'être capable d'expliquer. Alors, ça fait le jeu de quelques questions-réponses de temps en temps, c'est assez drôle, mais pourquoi? Qu'est-ce que le kayak? Qu'est-ce que le canoë? Souvent, on va nous dire, le canoë, c'est à deux, le kayak, c'est tout seul, etc. Non, la réalité, c'est à partir du moment où vous avez une pagaie double, donc vous avez deux pales, et d'accord, vous allez pagayer alternativement gauche-droite, vous faites du kayak.
D'accord.
À partir du moment où vous n'avez qu'une seule pale, donc vous pagayez que d'un côté, vous faites du canoë. Et il est possible de faire du kayak.
Voilà, on en apprend des choses.
C'est bien, on a compris la différence.
Voilà.
Okay. Et si je n'ai pas compris en direct, je pourrais même écouter en replay, n'est-ce pas, Fred?
Oui, exactement.
Il est possible de faire du kayak seul, à deux ou à quatre. Et le canoë seul à deux ou à quatre. Il n'existe pas le canoë trois places, il reste à inventer. Mais voilà. Et donc, c'est vraiment le canoë ou le kayak, c'est la pagaie qui va faire la différence.
Alors,
bien évidemment qu'après, la posture, la manière dont on va s'asseoir dans le kayak va être un petit peu différente. Mais si vous donnez à quelqu'un qui est assis comme dans un canot une pagaie double, en réalité, il fait du kayak. Et après, la richesse et à la fois, la richesse et parfois la difficulté du canot et kayak et de la fédération, parce que je crois que vous êtes bien au fait des fédérations, mais la Fédération française de canot et kayak, elle gère aujourd'hui 10 ou 12 disciplines la mer et 10 ou 12 disciplines dans trois environnements. L'eau calme, donc des lacs ou des rivières calmes, de l'eau vive, donc en bassin artificiel comme Pau par exemple, comme pas Pau, très loin de chez nous, en rivière naturelle mais
alors là mouvementée. Avec les JO, avec Estanguet et tout, on a
et puis la mer, donc déjà il y a ces trois milieux et en plus dans chaque milieu vous avez différentes disciplines, donc vous pouvez avoir ce qu'on va appeler par exemple le slalom comme Estanguet dans les portes à Pau, vous avez du freestyle, donc c'est réaliser des figures avec des kayaks. Et puis ça va être en eau vive, ça va être en eau plate la course en ligne, ça va être le kayak polo, donc c'est le kayak polo, c'est du water polo avec
water
kayak.
Polo avec kayak.
Et
oui.
Puis vous avez le surf ski qui est en gros du kayak en mer sur de la longue distance où vous avez des parties où vous allez surfer les vagues. Et puis par exemple ce qui est assez pratiqué là vers chez nous, notamment le club de la Cano qui est un ou voire le meilleur club français.
D'accord.
Avec par exemple du wave ski qui s'apparente à du surf assis sur un kayak, du kayak assis sur un surf où on va surfer les vagues, réaliser des figures.
En étant assis.
Et donc la fédération, elle gère ces 10 ou 12 disciplines, 12 je crois de mémoire. Et donc ça fait. Voilà,
mais tu vois, tout ça, on ne savait pas, on découvre. Donc c'est bien. Et c'est pour ça que je t'ai coupé, Fred, excuse-moi, mais c'était important de le savoir. Hein. Et maintenant, tu peux expliquer ce que tu fais à Libourne.
Nous, à Libourne, en effet, aussi pour une problématique des fois de place, mais les bateaux, on essaye de les optimiser. Ils naviguent, en effet, pour certains, ils naviguent dans plusieurs groupe. Après, nous, on a organisé, en fait, on a ce qu'on appelle les écoles de pagaie. Donc, c'est du débutant au pratiquant depuis 1 à 2 ans, voire des fois plus. Et on a une école de pagaie jeune, donc où on a des poussins Benjamin, c'est 9, 10 ans, 10, 11 ans.
Oui.
Eux, on leur propose 2 créneaux par semaine. On a l'école de pagaie adulte. Là, c'est pour tous les majeurs qui débutent l'activité, qui n'en ont pas fait avant et qui viennent. Donc là, on a surtout beaucoup des personnes de 40, 50 ans qui nous sollicitent. Et ça, on a un créneau le samedi matin. Et puis après, on a ce que nous, on a appelé collectif performance. Aujourd'hui, c'est un collectif d'une vingtaine, 15, 20 jeunes qui s'entraînent presque quotidiennement, qui ont des perspectives de vraiment qu'on le souhaite de progresser, d'être en compétition et de bien figurer. Et puis, on a un dernier groupe qu'on appelle Dragon Boat. Le Dragon Boat, c'est là aussi géré par la Fédération de canoë kayak. C'est des gros bateaux. Dans lequel on va ramer comme un canoë, on a une pagaie simple, il y a des bancs, on est 2 par banc, un va ramer à gauche et l'autre à droite, on est 2 par banc, et c'est des bateaux qui peuvent faire soit 10 places, soit 20 places, en plus Dragon Boat, donc un peu de fantaisie, il y a une tête de dragon à l'avant, il y a la queue à l'arrière, puis il y a quelqu'un qui est sur un tambour et qui donne le rythme.
La photo, oui.
Et il y a quelqu'un qui donne le rythme, donc voilà, et ça nous, on le fait, alors... C'est quelque chose qui marche bien parce que c'est facile d'accès. En kayak, des fois, quand on démarre tard, il faut gérer la stabilité. Ça reste un sport d'équilibre, le kayak.
Oui.
Et puis, la direction. Des fois, si tous ceux qui ont fait une petite randonnée l'été sur une rivière en famille se rendent compte que ça peut être un sujet de discorde. Et donc en Dragon Boat, il y a un barreur à l'arrière et souvent, c'est l'encadrant qui va diriger le bateau. Et donc, les participants, ils ont uniquement à ramer. Par contre, ils ont une mission importante, c'est de le faire ensemble. S'ils ne rament pas ensemble, ça marche moins bien. Et
un peu comme l'aviron.
Oui, voilà, exactement.
Ouais, d'accord.
Et ça marche bien parce que c'est une activité qui est assez facile d'accès, donc qui va plaire aux personnes qui viennent pratiquer une activité physique ou de plein air. Et puis aussi, par exemple, nous, on l'utilise pas mal dans tout ce qui est sport santé, sport sur ordonnance.
Oui.
Le public qui nous est guidé via la maison sport santé de Libourne, mise en place par la ville, on va les orienter vers cette activité qui est plutôt agréable. Et aussi, ce qui est bien avec cette activité par rapport au reste du canoë-kayak, c'est qu'on est un peu moins mouillé. Donc il y a une partie de l'hiver où ça passe un peu mieux.
Il y a quelque chose qui, dans ton introduction tout à l'heure, que tu nous expliquais, quand tu nous expliquais les horaires, tu nous as dit on reçoit des groupes. Mais je prends l'exemple du rugby ou du football, c'est des licences des clubs. Quand tu me dis on reçoit des groupes, nous, on appelle ça des journées portes ouvertes, c'est-à-dire que vous avez des journées portes ouvertes constantes ?
Non, nous, quand je dis les groupes,
c'est des groupes de licenciés.
C'est des licenciés de clubs.
Après, nous, on fait des portes ouvertes régulièrement.
D'accord, ok.
On notamment en septembre ou dans différentes situations. On reçoit, après, on propose des prestations pour des groupes extérieurs, type scolaire, centre de loisirs, entreprise ou autre. Mais nous, on a aujourd'hui à peu près 120-130 licenciés, et c'est pour eux qu'on met le plus d'activités en place, notamment celles que je listais tout à l'heure sur la semaine.
Donc on va dire que du lundi au dimanche, le club fonctionne ?
Du lundi au dimanche quasiment. En tout cas, nous, salariés, on y est du mardi au samedi de manière intense. Et puis après, on a des bénévoles qui ouvrent des créneaux le lundi, en effet. Et puis régulièrement le dimanche également. Et le dimanche, surtout, on est assez souvent en compétition.
Voilà. Oui, mais et puis je suppose, bien entendu, que vous n'êtes pas la seule section à utiliser les daguets. Et donc, vous avez des créneaux à partager avec l'aviron, avec...
Alors, à utiliser le plan d'eau, il y a le kayak et l'aviron. On arrive à le faire ensemble, on le partage, on se relaie pas. Il y a vraiment une navigation commune.
D'accord.
Voilà, il y a un sens de rotation, l'espace est grand, donc on ne se gêne pas.
Ouais, d'accord. Donc vous pouvez en même temps aviron et canoë-kayak.
Oui, tout
kayak.
À fait. Ouais.
D'accord.
Sans gêner les pêcheurs.
Très bien.
Voilà. Donc c'est...
Sur l'eau. Non, je plaisante.
Oui. Donc c'est parfait. Et alors, une chose qui m'intéressait, le canoë-kayak, on peut le commencer à partir de quel âge ?
Ça aussi, c'est une question qui est souvent posée. Alors, la première des choses, c'est qu'il y a, pour pouvoir faire du kayak, du canoë-kayak, il faut savoir nager. Nous,
c'est mort. Au revoir.
Alors après, il peut y avoir dans certaines situations, on va pouvoir équiper de gilets spécifiques qui vont permettre à tout le monde de pratiquer. Le but, quand même, c'est d'exclure le moins possible. Mais pour les jeunes,
ça va être une
attestation sur l'honneur de savoir nager 25 mètres. Alors, ça va être les parents pour les mineurs. Et après, en fait, souvent, comme les activités proposées par les clubs, tant qu'il n'y a pas une mise en place spécifique pour ce qu'on pourrait presque appeler du baby kayak, et qu'on est sur de l'activité, comme nous on le disait, école de pagaie, il y a une notion qui rentre en compte et qui peut être dure, c'est la force physique. Et un enfant qui va avoir 6 ans, 7 ans se débrouillera très bien, mais en fait à partir du moment où il n'a pas la puissance pour bouger le bateau, pour lui ça va être très frustrant parce qu'il va voir qu'il se débrouille bien, mais il va quand même être à l'arrière du groupe, et donc il y a des fois, moi j'essaye de dire il y a l'âge, il y a la force physique, et d'y aller par petites touches, notamment peut-être aussi pour les petits, de venir d'avril à octobre c'est bien. De venir en décembre, janvier, c'est un peu plus dur. Donc parce que des fois, les parents, quand il y a une licence, on vient sur tous les créneaux, peut-être de faire un créneau sur 3-4 pour ne pas perdre l'envie, la motivation, et de bien choisir ses créneaux. Aujourd'hui, il fait beau, c'est le bon jour. Aujourd'hui, il fait 2 degrés, 0 degrés, c'est peut-être pas le jour pour y aller.
En gros, pour que ça soit agréable pour les enfants, c'est 8-9 ans. Quoi.
Oui, sinon, voilà, ça va être 8-9 ans.
Oui. D'accord, voilà.
Il y a des bateaux adaptés pour les enfants, ou est-ce que c'est des standards
Non, justement, ça fait partie aussi des choses que nous, en tout cas à Libourne, pas que nous, je pense, mais que nous à Libourne, on a vraiment souhaité mettre en place. C'était pendant longtemps, en effet, les bateaux étaient les mêmes, des bateaux longs, lourds. Aujourd'hui, nous, par exemple, dans notre cœur de discipline qu'on appelle la course en ligne, le sprint, donc un peu comme un coureur à pied, mais sur l'eau, dans des couloirs, on navigue en mini-kayak. C'est des bateaux qui sont plus petits, qui sont plus stables, donc et vraiment, vraiment plus facile d'accès, mais qui tout de suite offrent des belles sensations. C'est un produit qui avait été mis en place à l'époque par la fédération hongroise, qui est à la pointe sur toutes ces innovations dans la course en ligne. Alors, c'est pas innovation, ça date de plusieurs dizaines d'années maintenant, mais qui se développe tout doucement en France. Mais ces bateaux-là, ils sont vraiment, c'est des bateaux écoles. Voilà, les enfants, ils arrivent à les porter seuls, facilement.
Oui. D'accord.
Voilà,
donc c'est de la fibre, hein,
c'est de la fibre, mais ils sont légers. Ils ont été faits en sorte qu'ils ne sont pas très fragiles. Ils ont des caissons étanches, ça veut dire que quand ils tombent, les bateaux ne coulent pas, mais celui-là, il va être facile à vider. Il y a plein d'éléments qui font qu'ils sont bien.
Aujourd'hui, tu parlais des créneaux compétition. Sur les 120 licenciés, c'est ce que tu nous as dit, combien sont en compétition ?
Aujourd'hui, nous, juste, c'est un peu la, je sais pas, c'est la force, mais en tout cas, c'est nous. Si on prend par exemple les championnats régionaux, alors en canoë et kayak, hein, pas forcément à comparer des fois avec des sports avec plus de pratiquants, mais nous, on se déplace, on va présenter. On a eu les championnats par exemple régionaux de ce qu'on appelle de fond, donc sur la distance de 5000 mètres. C'était à Bordeaux à Bordeaux Lac début mars. On a présenté 60 bateaux, il y avait 45 compétiteurs du club. Donc en gros, on est sur un bon tiers.
Ah, oui,
un bon tiers, ce qui est assez élevé. Ouais, là,
oui, c'est ça, c'est assez élevé. Ouais. C'est ce que
là, le championnat régional, toujours cette fois de sprint, aura lieu début mai à Libourne, donc à la maison. Mm-hmm. Je pense qu'on aura largement au moins 50%, 50 compétiteurs engagés, ce qui ne sera pas loin de représenter 40-45% du nombre de licenciés.
Et juste une question personnelle, parce que tu as dit que tu étais devenu salarié du club et que tu faisais ça depuis un moment, avant que tu étais bénévole. Est-ce que toi-même, tu as été médaillé, tu as fait de la compète ? Dis-nous tout.
Oui, moi j'ai commencé le kayak il y a 32 ans, en 94.
Belle année.
Hein. donc voilà, j'ai commencé. Et au début, moi je changeais de sport, je suis venu du foot au kayak et j'avais vraiment là juste l'envie de faire un autre sport. Je voyais justement moi je suis originaire de Bretagne et je voyais des kayaks passer au bout de la maison là, près d'une rivière. Et donc voilà, et puis assez rapidement, moi je crois que j'ai été un peu piqué par la compétition. Je me suis vite mis à la compétition, beaucoup en descente de rivière, donc c'est-à-dire des bateaux assez volumineux, assez longs, où vous avez un départ, une arrivée, pas de porte comme en slalom ou autre. Vraiment, le parcours est libre, chacun va prendre la trajectoire qu'il veut, c'est des contre-la-montre. Et voilà, et moi j'ai fait beaucoup de compétitions jusqu'au championnat du monde en cas de descente à plusieurs reprises. Et voilà. J'ai arrêté ma carrière d'athlète ma carrière en 2012, même si aujourd'hui j'aime beaucoup, je m'entraîne, je dis plus que je m'entraîne, je fais du sport presque tous les jours, mais j'aime bien continuer, puis ça permet de revoir à chaque fois les copains, ça reste une très bonne ambiance, donc je continue à faire de la compétition en amenant les jeunes.
Ouais, et dans toute cette carrière-là, quelques titres quand même, quelques médailles obtenues.
Nous, il y a quand même.
Je sens qu'il fait modeste. Non, vas-y,
dis-le.
Non, il y a beaucoup de. Nous, on fait beaucoup de compétitions régulièrement, donc on.
Non, mais toi.
Oui,
toi, est-ce que t'en as eu dans ta carrière? Qu'est-ce que t'as eu comme titre? T'as été champion de France, t'as été médaillé.
Champion de France, oui. Et après, par équipe, par exemple, où ça, c'était. Ouais. On courait à trois. Au championnat du monde, on a déjà fait à plusieurs reprises deuxième.
Ouais, d'accord.
Moi, j'ai jamais été, que ce soit individuel ou par équipe, jamais été champion du monde. En individuel, ma meilleure place au championnat, c'est cinquième en 2010, là, sur des championnats du monde qui avaient lieu en Espagne, sur une rivière assez sympa. Et voilà, et après au championnat de France, alors plus beaucoup quand je suis passé master, donc maintenant là avec pas mal de copains où on peut se courir seul à 2 à 4, et donc là oui, on a un moment on a eu pas mal de médailles.
D'accord.
Et tu parlais de championnat de France, mais il y a eu des compétitions européennes?
Alors moi j'ai fait quelques compétitions européennes, j'ai fait les championnats du monde, mais bizarrement moi j'étais un peu en mode alternatif, et il y avait une année où ça marchait bien, et souvent c'était l'année des championnats du monde, et une autre année où c'était un peu moins ça. Et moi j'ai fait trois fois les championnats du monde en descente de rivière par exemple, et j'ai jamais fait de championnat d'Europe. Donc
oui.
Parce qu'en fait, il y a des minima, que ce soit pour championnat d'Europe et championnat du monde, j'imagine.
Oui, il y a des sélections à chaque fois. Et c'était un moment d'ailleurs plutôt stressant. Il y a des sélections organisées par la fédération pour sélectionner les athlètes. Nous, par exemple, en kayak, pour pouvoir faire les championnats du monde de descente de rivière, il y avait à chaque fois 4 places maximum. Et des fois, la fédération faisait le choix d'en amener que 3. Donc il fallait déjà quelques semaines ou mois avant l'échéance, avant le championnat, il fallait déjà rentrer dans ces 3-là, 4-là. Donc par contre, on savait qu'après, une fois qu'on avait été sélectionné en équipe de France, on allait sans doute bien figurer au championnat du monde.
D'accord.
Et voilà. Mais vas-y. Ce genre de sélection, je l'ai vécu aussi, je connais ça.
Vas-y, Fred.
Dans un autre sport, moi, c'était le tennis de table.
Moi, je voulais poser une question sur, parce que t'es quand même, je sais pas si on dit coach, ou je sais pas comment on dit, entraîneur, ou voilà. En tout cas, tu encadres les pratiquants. Mm-hmm. Quand il y a un objectif de compétition, comment ça se passe pour faire les équipages, enfin en tout cas pour les bateaux où il y a deux, trois,
Alors, c'est, pour ma part, en club, moi, c'est assez. Alors, des fois, il peut y avoir des arbitrages ou en tout cas des questionnements ou en tout cas des choix. Mais moi, je dis aux athlètes, si admettons, ils sont 3 pour 2 places ou 5 pour 4 places, bah, on fait un chrono quelques jours, quelques semaines avant et les 4 premiers seront ensemble. Alors, souvent, on va entendre que les 4 premiers ou les 4 premiers plus rapides formeront pas forcément le meilleur équipage. Mais dans les clubs, on n'en est pas trop là, et puis ça évite toute discussion. Voilà, les athlètes, ils savent, bon, ok, il faut que je sois dans les 4 premiers pour être dans le 4 places. Mais ça n'a jamais été un réel problème, et puis et les athlètes comprennent.
C'est déjà arrivé, parce que bon, il faut être dans les 4 premiers, admettons. C'est déjà arrivé qu'il y ait une grosse différence de temps, un gros écart entre le premier et le deuxième, par exemple,
ou le quatrième.
Ou entre le troisième et le quatrième.
Oui, ça arrive. Après, moi, je leur explique aussi, c'est que. Des fois, ils sont pas tous dans la même dynamique. C'est-à-dire que le premier ou les deux premiers, ils s'entraînent presque tous les jours ou tous les jours. Ils veulent être sur le podium des championnats de France ou ils veulent même aller plus loin. Et puis le troisième, eux, ils sont dans une démarche un peu différente. Ils viennent une à une, deux fois dans la semaine. Et voilà. Et du coup, ils sont quand même super importants parce que sans eux, il n'y a pas l'équipage. Donc en effet, il y a des différences de niveau entre le premier, premier ou le deuxième, ou entre les deux premiers, etc. Mais moi, j'essaye d'expliquer surtout à ceux qui vont le plus vite, plutôt qu'ils soient frustrés de dire ah ouais, il avance pas, j'en sais rien, peu importe ce qu'ils pourraient dire bah là, s'il n'est pas là. Et tu n'auras pas de K4, ça te fait. Donc K4, c'est qu'il y a 4 places, ça te fera une chance de moins de médailles. Donc mets-le en confiance, va le voir éventuellement, tu peux l'inviter à venir s'entraîner un peu plus, mais mets-le en confiance, dis-lui des mots qui vont l'aider, parce que souvent aussi, ils sont surtout stressés, parce que du coup, ils se disent ah, je vais être le boulet et tout, alors que ce n'est pas du tout ça. Et donc ça, moi, je vais le dire à ceux qui vont bien, puis ceux qui sont justement dans cette situation de 4e, de 3e, où finalement, ils disent bah voilà, je vais leur expliquer aussi qu'ils sont là et c'est déjà beaucoup, et voilà.
J'ai une question qui me vient par rapport au jeune public. Je le vois, moi, dans les sports co, que ce soit le foot où je suis licencié dans un club valide malgré mon handicap, on parle de formation et non pas de compétition, et on ne parle plus d'exigence de résultats. Alors toi qui es coach, peut-être que tu vas nous dire l'inverse, mais comment vous travaillez ça avec le jeune public? Parce que j'imagine qu'un gamin de 12 ans, il veut quand même faire de la compétition. Comment tu amènes ça, toi, au jeune public?
Alors nous, d'abord, moi, j'ai toujours fait de la compétition. Bien évidemment, j'accompagne pour faire de la compétition. Mais moi, la première des choses, je le dis, hein, quand ils viennent, c'est que le choix, il est libre. On n'est obligé de rien. C'est-à-dire que celui qui ne veut pas faire de compétition, moi, ça ne me dérange pas. On en a quelques-uns. Souvent, ils viennent, ils ne veulent pas. Et puis après, en voyant les copains,
ils y prennent goût.
Puis finalement, c'est peut-être à la fin les plus mordus.
Oui. Voilà.
Et après, en fait, aussi, nous, c'est que des fois, ils n'ont pas le modèle au sein du club. Alors, je le dis là à ceux qui grandissent un peu, je les appelle les pionniers, c'est qu'eux, ils montrent la voie. Aujourd'hui, nous, on est un jeune club, donc les tout jeunes, ils ne se rendent pas compte qu'ils peuvent aller au championnat de France, qu'ils peuvent essayer de gagner, qu'ils peuvent, voilà. Et donc, ça se construit petit à petit. Moi, j'ai des jeunes qui, au début, n'avaient pas forcément idée de faire de la compétition, et encore moins de bien y figurer. Et puis, en voyant quelqu'un de 1, 2, 3 ans de plus de réaliser des belles performances, se dire « Ah, je peux le faire ». Et souvent, en général, ils vont au-delà. Et donc ça, ils tracent un peu une voie. Et je pense que, j'espère que dans quelques années, ça ira encore plus haut. Mais voilà, moi, je n'ai pas des attentes particulières sur le niveau sportif. Par contre, quand ils me disent « Je voudrais faire ça », moi, je vais vraiment insister sur. Je vais les amener, mais surtout eux, je vais leur dire bah ouais. Par contre, si tu veux faire ça, il faut que je te vois. Il faut que tu viennes plus régulièrement. Voilà, à la fin, et si tu veux que ça marche, il faut s'entraîner, ça, c'est certain.
Oui, voilà. Fred.
Oui, moi, je pose des questions quand même, viennent aussi.
Oui.
Mais
oui,
début, Guy disait qu'effectivement, le kayak ou le canoë, c'est pas forcément ultra médiatisé en dehors des JO.
Et du slalom, c'est particulièrement le slalom.
Mais au niveau plus local et au niveau du club, puisqu'on parle de ça, on arrive quand même à trouver des partenaires et des aides quand on veut faire des activités, puisque il faut rassurer quand même ses partenaires. Et si c'est pas médiatisé, est-ce que...
Ouais. Alors, nous, on est vraiment accompagné par des partenaires institutionnels, la ville de Libourne, la communauté d'agglomération, la région, le département, ça et la fédération, l'État, bien évidemment. Pour nous, et c'est certain que c'est plus compliqué
des partenaires privés,
obtenir des partenaires privés. Nous, là où on y arrive le mieux, c'est quand on organise des manifestations. On à peu près tous les deux ans, on organise un championnat de France au Daguet. L'été dernier, on a fait les championnats de France de sprint. C'est 5 jours de compétition. C'est 1500 compétiteurs. Et donc là, on arrive plus facilement, avec ces manifestations, à aller chercher des partenaires financiers. On est peut-être moins bon dans la fidélisation. À chaque fois, il faut retourner un peu les chercher. Et après, en fait, nous, on n'est pas très médiatique. Je ne sais pas aussi si on est très bon dans la communication. Quand moi, je vous parle des jeunes. Voilà, nous, on a 3 filles là qui vont disputer à la fin du mois d'avril les championnats du monde de rafting. Et on a du mal à en parler, et encore moins à faire en sorte qu'elles soient soutenues par des entreprises privées ou autres, alors que c'est leur projet, elles l'ont monté ensemble, on les accompagne, mais voilà, c'est des jeunes, elles sont lycéennes, elles se démènent, et elles ont réussi à se sélectionner fin janvier à Pau, et elles vont disputer les championnats du monde, alors qu'ont lieu à Pau. Et elles sont juniors et elles ont été sélectionnées aussi en équipe senior. Elles vont disputer les championnats d'Europe en Bosnie-Herzégovine
fin mai. Oui.
Et aujourd'hui, elles cherchent un petit peu. Je pense qu'elles ont des choses à faire valoir pour
accrocher des partenaires. Mais c'est encore plus compliqué.
Mais nous, il faut qu'on travaille là-dessus, c'est sûr, pour fidéliser, pour démarcher des partenaires et les fidéliser.
Ouais, moi, justement... On parlait des fédérations et tout ça tout à l'heure avec Guy, juste avant que tu viennes sur notre plateau. Est-ce que le moment où vous obtenez le plus de licenciés, si je puis dire, c'est pas en période d'Olympiade ?
C'était ça.
Tu as donné Stangue,
ouais, c'était ça avant. Il y a eu des forcément avec... Avec une tête d'affiche comme Tony Estanguet, il y avait ces effets-là. Ça l'est moins. Très, très sincèrement, après les Jeux de Paris, à Paris, je pourrais vous poser la question combien il y a eu de médaillés. Je pense que vous. Et après, vous demandez les noms, mais personne ne saurait.
Et voilà, c'est ça.
Et donc,
niveau du canoë-kayak, je ne sais pas.
Voilà, à Paris, il y a eu 3 médaillés olympiques. Oui. Dont un champion olympique et en canoë qui a pris un peu dans il y a encore eu un autre avant, Denis Gargouchanu, mais là c'était en canoë, c'était dans la catégorie de Tony Estanguet. La France, elle est hyper performante dans cette catégorie. Et aujourd'hui, les gens, on sait pas combien de médaillés,
et on sait même plus comment ils s'appellent la médaille.
Donc, il y a un travail là-dessus à faire, c'est certain.
Vas-y. Par contre, alors, moi, j'avais une question parce que je connais, comme je te disais, un peu plus l'aviron, parce que je l'ai suivi pour le journal Sud-Ouest assez longtemps, le club L'Émulation Nautique de Bordeaux. Et je sais, à l'époque, alors je ne sais pas si vous, c'est pareil, ce ne sont pas des sports traumatisants pour le corps. Je me rappelle, en aviron, il y avait très peu de blessures. Est-ce que c'est pareil en canoë-kayak?
Oui, c'est sûr que nous, on n'est pas un sport de contact. On est, moi, comme je dis souvent aux petits comme aux grands, tomber en kayak, ça fait pas mal.
Oui.
Ça fait moins mal qu'en vélo, par exemple. donc le sport, il est pas traumatisant.
Et puis ça fait travailler peut-être
le gainage, l'équilibre.
Symétriquement les.
Alors le canoë est moins. Le canoë, comme vous payez sur un côté, mais le kayak, en effet, il y a cet aspect de symétrie. Après, le kayak, il y a quand même quelques blessures, mais on arrive sur des blessures quand on est sur une pratique intensive. Athlètes qui, là aussi, ça traîne tous les jours. Et en fait, ce n'est pas le canoë-kayak qui les blesse, c'est la charge d'entraînement.
La charge d'entraînement.
Donc voilà, donc ce n'est pas un sport traumatisant. Après, vous avez les épaules qui travaillent un peu plus que ce qu'on fait au quotidien. Voilà, mais Et après, il peut y avoir des fois, là où le kayak peut blesser, c'est des fois en eau vive où en effet, des appuis, ça va être des luxations d'épaule, etc. Mais c'est assez marginal et assez rare par rapport au nombre de pratiquants. Et voilà. Donc c'est peu traumatisant.
Ouais,
souvent d'ailleurs, même c'est intéressant, on récupère des adultes et pas que des adultes qui ne peuvent plus courir, qui ne peuvent plus faire de vélo parce qu'ils ont mal aux genoux. Et du coup, ils se retrouvent à faire du kayak parce que.
C'est comme les anciens qui faisaient du tennis qui se mettent au paddle.
Voilà, c'est ça un peu. Ouais. C'est ça.
Moi, Guy parlait tout à l'heure de disponibilité au niveau de. Par rapport au bassin, comment vous dites.
Au plan d'eau, au bassin, on dit bassin. Ouais.
Au plan d'eau, vous avez parlé de 120 licenciés. Vous êtes au maximum, par exemple?
Non, nous, j'espère pas. Non, l'objectif, c'est de continuer à grandir. Pas grandir pour grandir, hein, mais c'est. Il peut y avoir un aspect économique, mais c'est pas le premier objectif. C'est aussi d'avoir une densité, notamment chez les jeunes, par rapport à ces notions d'équipage aussi. Quand vous avez 4 jeunes, vous dites oh là là, il faut pas qu'il y en ait un qui arrête. Quand vous en avez 6-7, tout de suite aussi, ça met en. Voilà. Et puis l'objectif, c'est de faire connaître notre sport, notre activité. Donc c'est de convaincre du monde de venir et puis d'apprendre. Moi, on me demandait tout à l'heure coach, entraîneur. Je dis aussi tout éducateur. Hein, le plaisir d'apprendre à des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, à faire du canoë et kayak. Et d'être. Il y a un spot d'entraînement, un spot de pratique qui est magnifique au Daguet. Et donc, les Libournais doivent savoir faire du kayak.
Je crois, alors je ne sais pas si c'est pour vous, c'est pareil, mais peut-être, mais je crois qu'au niveau d'Aviron, le plan d'eau des Daguets est de niveau international.
Ah oui, c'est un bassin qui est reconnu pour ça.
C'est ça. Hein.
Il a des éléments qui sont assez rares. C'est d'abord le fait qu'il soit équipé en permanence de lignes d'eau. D'accord. C'est assez rare sur les plans d'eau. Vous avez 8 couloirs alors qu'ils sont aux dimensions aviron, mais pour les kayaks, c'est pas gênant.
Oui.
Ils sont donc 8 couloirs qui sont en place en permanence. Ça, c'est vraiment rare.
D'accord.
Ils sont super bien alignés. Il y a du balisage tous les 250 mètres. Alors, il y a des bouées tous les 10 mètres, hein, mais vous pouvez facilement vous repérer. C'est un plan d'eau qui est abrité. Le vent dominant, il vient de l'ouest et c'est là où il y a le plus d'abri. Donc, en 90% des séances, vous êtes abrité ou au moins vous avez sinon le vent dans le dos ou de face, mais pas de côté. Et puis, la dernière grande qualité, c'est qu'il n'y a pas d'algues. Dans notre sport, ce qui rend compliqué dans des bassins fermés comme ça, c'est notamment l'été, c'est quand vous avez des algues.
Ah, d'accord.
La profondeur du plan d'eau des Daguets, qui est 6 mètres, fait qu'aujourd'hui, on n'a pas d'algues. Et donc voilà, ça en fait un bassin d'une qualité extraordinaire.
Alors, parce que pour ne pas connaître ça, tu parles de 6 mètres. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup ?
C'est beaucoup.
Ah, c'est beaucoup,
c'est beaucoup
pour un lac.
Ouais, pour un lac, pour un plan d'eau artificiel comme ça, c'est beaucoup.
C'est beaucoup, si
c'est beaucoup. Et donc ça fait que, alors je ne suis pas sûr qu'ils avaient calculé ça à l'époque, mais ça empêche du coup la prolifération des algues, parce que c'est trop profond. Alors jusqu'à maintenant, on croise les doigts.
Ouais,
et puis aussi, c'est très intéressant parce que des bassins pas très profonds sont pas très rapides. Il y a un phénomène de vague qui va taper au fond, qui remonte, et du coup, vous n'avez pas ces problématiques avec des bassins de 6 mètres. Donc c'est un bassin qui est rapide et qui est. Où vous n'avez pas des couloirs plus avantageux que d'autres. Les couloirs du bord, le fond descend vite, et donc vous soyez en couloir 1 ou 8, ça ne va rien changer. Quoi.
D'accord.
Ouais. Et question de novice absolue, j'en suis désolé.
Pas de souci.
Est-ce que c'est mixte, c'est-à-dire est-ce que c'est mixte suivant les compétitions ou pas ?
Alors, malheureusement. Non,
question suivante.
Ouais, non, pas du tout. Les garçons courent avec les garçons, les filles courent avec les filles.
Ouais.
Dans quelques disciplines ou quelques embarcations, les équipages mixtes sont possibles. Vous avez, par exemple, du canoë biplace en descente de rivière mixte. Vous avez, on a en eau plate, on a 4 championnats de France. Et un des championnats de France, c'est marathon, donc de la longue distance. Et là, le mixte est possible. Mais par exemple, on va faire le championnat de France là, le week-end prochain à Vitré, à Rennes. C'est du 5000 mètres. La mixité n'est pas possible. Moi, à titre personnel, plus que la mixité, ce qui m'embête, c'est que les filles ne puisse pas courir avec les garçons. Je m'explique. C'est-à-dire que nous, par exemple, on va avoir, si on va très simplement, dans la même catégorie, un garçon et une fille. Et ils vont pas pouvoir faire de biplace parce qu'ils ont, ils sont que un garçon, une fille. Et donc, on pourrait dire, ben, mettons les ensemble, ils vont courir contre les garçons. Et ça, c'est pas possible. Donc, ou alors, des fois, ça arrive. Là, on a des filles qui vont plus vite que les garçons dans un 4 places. On a 4 garçons. Admettons, on a 4 garçons. Vous avez une fille qui est toute seule dans sa catégorie. Elle va plus vite qu'au moins une partie des garçons. Et on ne va pas pouvoir la mettre, elle. Donc, du coup, elle est plus rapide et elle est pénalisée. Donc, moi, ça serait presque le combat que je mènerais. Au-delà de la mixité, c'est de permettre aux filles de courir dans la catégorie des garçons.
Question qui se rejoint, peut-être que tu y as répondu sans le vouloir. Et j'ai pas. Est-ce que on le voit dans des sports co? En basket, en football, en rugby peut-être pas, en basket, en football ou en hand, jusqu'en benjamin, donc je sais pas si ça équivaut. Les filles jouent avec les garçons.
Ouais. Non, mais malheureusement, là, non, c'est, nous on a pas ça non plus. Dans la première des catégories, c'est poussins, c'est garçons. Vous avez les poussins et les poussines, les benjamins et les benjamines.
C'est bien dommage.
Voilà. Après, bah, des fois, on va essayer de avec l'organisateur dire bah est-ce qu'on peut inscrire un bateau, alors il va être en hors course mais il aura son temps, mais voilà, mais c'est pas une des catégories officielles dès le début.
Et ça c'est bien dommage par contre.
Par contre, il y a une chose qu'il faut qu'on sache aussi, parce que tu nous as parlé beaucoup de 5000 mètres. Quelles sont les distances du kayak, donc il y a au niveau des courses, il y a plusieurs distances.
Alors nous on a plusieurs distances, mais si dans un ici on avait deux à garder, deux et demi ou deux, trois, je vais pas. C'est les distances olympiques. Oui. Pour nous, en course en ligne, en sprint, et ça va être du 500 mètres.
D'accord.
Pour tout ce qui est au jeu, tout ce qui est équipage, filles ou garçons, ça va se courir sur 500 mètres. Les kayaks dames vont courir sur 500 mètres. Et les tout ce qui est monoplace chez les hommes, donc canoë et kayak, c'est sur 1000 mètres.
D'accord.
Et enfin, les canoës dames, elles courent sur 200 mètres. Donc pourquoi
moins de distance ?
Ouais, historiquement, les deux distances phares, c'est le 500 et le 1000 mètres. Après, ça c'est aux Jeux Olympiques. Maintenant, il y a eu pendant longtemps, pendant plusieurs Olympiades, du 200 mètres. C'était assez spectaculaire. La dernière médaille française en course en ligne, c'était Maxime Beaumont, qui est actuellement au Daguet, là, qui est entraîneur et qui est chez nous. Là, on a entraîné une jeune athlète chilienne. Mmh. Et lui, il a fait médaille d'argent en 2016 à Rio. Mmh. Et c'était en kayak 200 mètres. Donc c'était 35 secondes de course. Hein, c'était très
intéressant. Ah oui, là,
c'est vrai. Et puis cette distance a après un peu disparu et elle ne reste plus qu'en canoë dame. Voilà.
D'accord.
Et après, au niveau. Sur des compétitions mondiales, mais pas les Jeux. Hein. Vous avez, vous avez le 5000 mètres, vous avez...
Oui, parce que tu parlais des 5000 mètres beaucoup. Alors ça, c'est une...
Vous avez le 5000 mètres, vous avez du marathon, c'est jusqu'à 30-35 km.
Ah oui.
Vous avez aussi ce qu'on appelle short race. C'est quasiment 3 km, mais vous avez un système de portage. Vous êtes obligé de débarquer, porter votre kayak, rembarquer un peu plus loin. Donc, c'est des activités, c'est des disciplines qui existent, mais nous, le cœur de notre pratique, ça reste la vitesse, donc 500 000 mètres.
500 000 mètres, d'accord.
Et question, c'est en rapport avec notre émission de tout à l'heure. Je ne sais pas si tu as un peu pu écouter ce que l'on a dit, parce qu'on a dit pas mal de bêtises, comme à notre habitude.
Oui, mais bon, mais,
j'ai pas entendu.
Ah, c'est bien. Si t'as pas entendu, tant mieux. Est-ce que dans votre club, vous avez des pratiquants en situation de handicap ?
Justement, juste avant, un petit complément. C'est vrai que nous, le kayak est présent aux Jeux paralympiques aussi.
Oui.
La distance de course aux Jeux paralympiques, c'est le 200 mètres. Donc tous les athlètes paralympiques... où tous les athlètes en paracanoë courent sur 200 mètres. Après, nous, aujourd'hui, au club de Libourne, aujourd'hui, on n'a pas d'athlètes en paracanoë avec handicap physique.
D'accord.
On a un athlète qui va courir dans une catégorie qui n'est pas forcément régie par la fédération de kayak, un peu dans les problématiques que vous expliquiez tout à l'heure, mais qui va être en déficience mentale. On a eu l'année dernière la chance... d'avoir, parce qu'elle est venue aussi justement avec Maxime Beaumont qui était son entraîneur, on a eu la chance d'avoir plusieurs mois une athlète chilienne qui avait gagné les Jeux Paralympiques à Paris et qui est venue s'entraîner 5-6 mois à Libourne et qui était elle, donc qui s'appelait Cathy Wollerman et qui avait gagné Paris et qui était en fauteuil roulant et qui faisait du kayak. Elle a été licenciée au club, elle a couru les championnats de France pour le club de Libourne. Voilà, après c'était un one shot, on a saisi l'occasion, en tout cas on était ravis de l'accueillir. Et voilà, mais nous on a très peu aujourd'hui le club de Libourne, on va être sur les différentes plateformes, on est labellisé sport Handivalide, etc. On a, j'allais dire peu, mais je crois que le mot le plus adapté c'est pas, on n'a pas de demande de pratiquants avec handicap physique.
Alors peut-être que je vais faire un bide, mais j'ai eu un message de Florence Mechkas qui me dit qu'elle vous connaît et qu'elle vous salue parce que vous êtes occupé de ses enfants.
Ah, très bien.
Alors voilà, donc je sais pas, je vais peut-être faire un bide. Hein,
mais non,
mais bon.
Comme ça, je fais passer le message, elle sera contente. Très bien. Parce qu'elle me dit que justement, par rapport à la Wallabit et sa situation d'handicap, elle, ça permet à ses enfants quand même de pratiquer un sport. Un sport individuel, c'est ce qu'elle souhaitait.
D'accord, très bien.
Donc, et donc par rapport à ce que vous disiez, à l'âge de ses enfants, c'est 7-8 ans, mais vous prenez à partir de...
Nous, les plus jeunes, ils ont 8 ans. 8,
oui,
9
voilà,
ans,
c'est ça. Donc, quand vous dites poussin, c'est donc 8-9 ans.
Oui, poussin, oui, c'est ça, c'est 9 ans. Donc, c'est CE2, quoi. Ouais.
Et allez, question un petit peu rigolote, quel est l'adhérent le plus âgé? Le licencié, pardon, le plus âgé?
Il doit avoir aujourd'hui, il faut pas que je me trompe, il va m'en vouloir. Non, il doit, je pense qu'il a, il doit approcher des 80 ans.
Ouais. Ah oui.
Mais bon, c'est à peu près, hein, je dis 80 ans, mais il en fait beaucoup moins en réalité. Ah. C'est un très actif.
Comment se rattraper bien?
Il est très actif. Non, mais, voilà.
Moi, j'ai une autre question, mais ça par rapport à ce qu'on disait un petit peu en amont sur la diversité des licenciés et l'accueil. Par exemple, moi, si j'ai envie demain de me licencier en kayak, bon, c'est pas un secret, j'ai un IMC qui n'est pas forcément complètement représentatif de la norme. comment je vais être accueilli dans un bateau à plusieurs puisque je vais avoir plus de poids. je vais être du coup un poids pour tout le monde. Alors, est-ce que je vais faire du bateau tout seul?
Ouais, non, bah, là vraiment pas. Hein. Nous, alors, par exemple, le Dragon Boat, hein, si on prend le Dragon Boat, nous, on a des personnes qui viennent via la maison Sport Santé, on a des personnes qui sont venues pour le canoë et kayak et qui ont accroché au Dragon Boat, il y en a qui viennent faire que le Dragon Boat.
D'accord.
Moi, en général, on a quand même une grande majorité qui vient chercher une activité physique, qui veulent faire du sport, qui veulent se dépenser. Ce que j'explique à ceux qui pourraient avoir moins l'habitude du sport, qui pourraient avoir des douleurs physiques, c'est que d'abord, c'est un bateau, même si en effet, il faut ramer dans le rythme, c'est un bateau qui a de l'inertie. Si à un moment, vous mettez moins d'énergie, si vous faites une pause, vous rangez la pagaie, le bateau, il ne va pas s'arrêter d'un coup. Voilà. Et moi, je n'ai jamais connu, jamais vu de problématiques sur cet aspect-là. Voilà, et quand sur 10 rameurs, il y en a un ou deux qui s'arrêtent de ramer, le bateau, on sent pas, il freine pas d'un coup. Et donc, on a des personnes qui sont en surpoids et qui. Il y a aussi. Le Dragon Boat permet ça aussi, c'est que justement faire du kayak, ça va être compliqué des fois. Et le Dragon Boat, bah, il est un peu plus. On est un peu moins enfermé, on est un peu plus. On se sent un peu plus libre.
Oui, j'ai plus un gabarit de tahitien.
Ouais, il y a de la marge quand même, je crois. Il y a de la marge. Non. Et après, pour des kayaks, les kayaks en kayak individuel, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que. On a une gamme évolutive, on a des bateaux qui sont vraiment... On a des bateaux, bien évidemment, qui vont être très fins, très rapides, on ne va pas parler de cela tout de suite, mais par contre, on a des bateaux larges, stables, où il y a de la place. L'Île-Loire, c'est la partie dans laquelle on rentre quand on vient s'installer, qui est très ouverte, donc on n'a pas ce sentiment d'être enfermé. Donc voilà, on a vraiment toute une flotte de bateaux adaptés pour les différents publics.
Alors, il y a une chose, ça me fait penser, je rebondis, ça me fait penser à ça, parce que je me rappelle en aviron, les bateaux, les pagaies, etc., les rames, ça vaut une fortune. Est-ce que c'est pareil de votre côté?
Ah oui, peut-être. Alors, Nous, c'est moins volumineux, moins grand qu'un aviron, donc ça coûte peut-être un peu moins cher, mais ça coûte déjà très cher. Et puis surtout, ça a beaucoup augmenté depuis le Covid.
Bizarrement.
Non, mais il y a vraiment une évolution forte. Aujourd'hui, un kayak, une place course en ligne de compétition à très haut niveau, il faut compter 4000 euros. Et puis des pagaies, les pagaies, c'est, vous êtes à au moins 500 euros la pagaie. D'accord. Aujourd'hui, si vous avez une pagaie digne de ce nom, entre guillemets. Dans l'équipement club, on est sur des prix qui baissent un petit peu, mais là, aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait des bateaux adaptés aux enfants, des mini-kayaks. Nous, on en attend 4, là, qu'on a commandé, 3, 4. Pour tout vous dire, aujourd'hui on doit les payer à peu près 1300 euros l'embarcation. Quand dans mes souvenirs on les payait entre 800 et 900 euros il y a 5 ans, quoi. Donc il y a une augmentation incroyable. Et donc, c'est.
Bon. Et alors, donc, par rapport à ça, je pense que le club, tous les bateaux, toutes les embarcations sont au club. Les jeunes n'arrivent pas avec leur propre bateau aussi.
Au club, la plupart des bateaux sont club. Quelques athlètes, très peu, et j'espère de plus en plus, ont leur propre matériel.
D'accord.
Mais en effet, oui, il faut, faut déjà
avoir
les moyens.
Au club.
Le club fournit, nous on fournit pour des gens qui, aujourd'hui, qui viennent démarrer l'activité et des personnes qui, là, vont courir le championnat de France, par exemple, le week-end prochain. Le club fournit, est capable de leur fournir bateaux, pagaies et tout le matériel, gilets de sauvetage. Voilà, ils ont leur tenue personnelle. Mais après, libre à eux d'acheter et pour avoir du matériel peut-être encore plus performant. Mais on leur propose déjà, que ce soit en monoplace ou en équipage, des bateaux compétitifs.
Il doit y avoir, excusez-moi Fred, je finis, il doit y avoir aussi, je pense, au niveau de l'éducation, par rapport aux jeunes, il doit y avoir aussi un focus sur l'entretien des bateaux, le rangement, le lavage des bateaux, le lavage du matériel, de ne pas faire des bêtises, de ne pas casser, de pas... Non,
casser, oui, parce que c'est moi qui répare souvent. De ne pas casser, je les reprends souvent, je leur dis que c'est les pagaies, ce n'est pas des bêches, par exemple, parce que souvent, il y en a tendance, je les vois creuser des petits trous dans l'herbe avec, et que je leur dis, c'est à eux, c'est eux qui vont l'utiliser. Nous, on est moins en kayak, je pense, moins à nettoyer les bateaux systématiquement.
D'accord.
Parce que c'est... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et moi, au sein du kayak, je suis pas encore... je suis pas du tout à nettoyer les kayaks. Donc, c'est pas quelque chose que je...
D'accord.
Mon bateau... Les bateaux doivent rester en bon état et tout, mais...
À l'état du matériel, parce que c'est un matériel qui vaut cher, quand même.
Oui,
donc, peut-être que vous devez leur faire prendre conscience de...
Et puis, si vous perdez un morceau au cours de la compétition, c'est toujours embêtant, quoi. Si vous perdez un gouvernail ou votre cale-pied s'arrache parce que vous l'avez pas vérifié ou qu'un câble... Voilà. Donc, il y a quand même un suivi,
Fred, peut-être.
Oui, alors moi j'ai une question un petit peu dérivative, mais je pense que c'est important d'en parler un petit peu maintenant, parce que je vois l'heure qui passe quand même. Le club, alors j'ai entendu dire qu'il allait mettre en place une nouvelle activité sur le plan d'eau, de la location. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots?
Alors nous, avec l'arrivée d'Adam, là, mon collègue, en décembre, il est arrivé, il a la casquette d'agent de développement. Donc on a travaillé à définir notre gamme de prestations pour le grand public, pour le public hors licencié. Ouais. On a travaillé à définir nos tarifs et ce qu'on pouvait proposer. On a pris contact déjà avec les centres de loisirs, un peu avec des scolaires, avec des entreprises. Donc c'est des choses qu'on souhaite développer. Et puis, alors, on va pas forcément faire de la location à proprement parler, parce que il y a des problématiques. Déjà, ça bloque une personne le temps de la location. Et puis, ça veut dire aussi qu'on va laisser libre les personnes sur le plan d'eau, au daguet, où potentiellement il peut y avoir des avirons ou des kayaks à l'entraînement. Donc, il faut pas aller couper la ligne.
Ouais.
Vous avez la plage surveillée l'été, vous avez la structure gonflable, vous avez différentes animations voilà. Donc, nous, ça va être pour le grand public, ils vont pouvoir s'inscrire et venir à des séances d'initiation encadrées pour le coup, où on les guidera. Ils vont pas être laissés libres seuls, mais par contre, ça sera des séances encadrées. Mais en travaillant là aussi avec l'Office du tourisme, avec Avec les organismes de Libourne, les espaces jeunes, etc., on met des séances en place, notamment pendant la période estivale, hein, toutes les semaines, il sera possible de venir naviguer, notamment le mercredi, tout ça est sur notre site internet où le sera très prochainement. Il est possible de venir naviguer en famille ou seul au Daguet.
Donc, rappelez-nous un petit peu comment vous joindre, comment aller sur votre site internet, comment vous appeler, comment on peut vous prendre les informations sur votre club.
Alors nous, le club s'appelle le Canoë Kayak Sport Libourne, et donc notre site internet, c'est les premières lettres de ce nom-là, c'est cksl.fr.
D'accord.
Mais vous tapez Canoë Kayak Libourne, vous tomberez sur nous, ou même Kayak Libourne.
Oui, club Kayak, ça fonctionne très bien.
Ouais, ça marche aussi. On a cette chance d'être assez de ne pas avoir trop de concurrence dans le domaine.
Voilà.
Donc voilà. Et puis après, nous, on est sur tous les réseaux sociaux principaux, Facebook, Instagram, Twitter, on est sur LinkedIn. Voilà. Donc on peut être là aussi identifiable. Et puis après, le mail, pareil, il est assez simple. contact@cksl.fr. Normalement, on est assez facile à trouver.
D'accord.
Et question un peu rigolote pour terminer. Si Guy et moi, on veut venir essayer un mercredi pendant les vacances d'été, vu qu'on va s'ennuyer, le kayak et qu'on est en situation de handicap, du coup, il faut vous appeler pour réserver un bateau. Comment ça se passe?
Disons que si vous nous appelez, ça va nous permettre d'anticiper, de réfléchir à ce qu'on peut vous proposer. On va vous questionner sur le handicap, sur la mobilité que vous avez ou pas. Donc, on va pouvoir réfléchir. Si vous venez sans avoir appelé précédemment, même si normalement les séances, il faut s'inscrire à l'avance, mais nous, on a des bateaux. On va pouvoir proposer en fonction de la mobilité de chacun des bateaux où vous serez plus ou moins tenus, notamment au niveau du dos. On va avoir des bateaux nous c'est des kayaks de mer où vous allez avoir un dossier dans le dos. Et puis aussi après c'est aussi de pouvoir former des équipages, des kayaks. Nous on a des kayaks de mer, donc là où vous êtes tenus, et il peut y avoir des biplaces, donc ça permet aussi d'être avec un valide qui va peut-être pouvoir guider.
Voilà,
au début
c'était ma question aussi.
Voilà, donc on a la possibilité de proposer des bateaux adaptés.
Alors toi, t'es un jeune homme, Alexis, donc il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne pourrais pas. Toute ma bonne volonté,
tu te mets avec Fred.
Je ne regarderai ça que du bord. Voilà.
Mais non.
Avec peut-être un appareil photo pour prendre des photos au moment où tu vas tomber à l'eau. Ça sera peut-être le point essentiel. Mais je dis le reste, non, j'ai trop de problèmes de santé et peu de mobilité, de moins en moins de mobilité, donc c'est un peu plus difficile. Mais à une époque, moi aussi, j'ai dans mon secteur, puisque j'ai mon brevet d'état de tennis de table, tout de même, j'ai été entraîneur pendant une dizaine d'années, mais j'ai eu 13 titres de champion de France en e-sport de tennis de table et 2 médailles de bronze au championnat d'Europe. Voilà. Mais j'étais plus valide que maintenant. Hein,
mais
sans, malheureusement.
Le canoë kayak, quand même, fait vraiment un travail important sur l'inclusion Alors nous, on a déjà reçu l'association comme les autres qui est venue faire des essais et tout. Et il y avait des personnes qui avaient une mobilité très réduite. Alors la personne déjà, en fait, où on a des clubs qui sont un peu des clubs phares dans ce développement-là. Je pense au club de Vivonne dans la Vienne, où ils travaillent avec des établissements où les personnes, elles sont même pas en capacité de pagayer, de ramer, mais par contre, leur offrir la possibilité, avec aménagement dans un bateau biplace, à deux places, même un canoë, de pouvoir être sur l'eau et de faire une sortie sur l'eau, c'est un épanouissement pour les personnes.
Donc,
je pense qu'il ne faut pas au-delà de peut-être la mobilité réduite, je ne vais pas pouvoir pagayer. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les clubs de kayak. Bordeaux est aussi très au fait là-dessus, le club de Bordeaux.
D'accord,
et l'émulation nautique. Et les clubs, je pense, pourront vous proposer une sortie adaptée à la hauteur du handicap.
Du handicap.
Fred, pour clôturer peut-être ?
Oui, juste une petite question assez rapide. Quels sont les prochains rendez-vous du club, du coup ?
Là, assez rapidement, nous, quand même, on attend avec impatience le championnat de France de ce week-end. C'est la sortie d'hiver, donc on va voir aussi si on a bien travaillé. On va regarder un peu ce que donnent les résultats. On a les championnats de France d'été là, sur les distances olympiques qui auront lieu début juillet à Mantes-la-Jolie. Ça reste quand même le moment phare de notre saison. C'est là qu'on voit si ça va bien ou pas, si ça marche bien. Et puis pour cette année, avec l'arrivée d'Adam, c'est aussi de voir comment ce qu'on a mis en place fonctionne. Est-ce qu'on a du monde l'été ou sur la partie plutôt favorable à notre pratique, est-ce que des entreprises ont été intéressées dans le cadre d'un séminaire ou autre, d'un team building, de venir naviguer avec nous? Voilà, ça, c'est ces éléments-là. Mais voilà, nous on rentre dans une partie où il y a beaucoup de compétitions, mais ce qu'on va regarder, c'est les championnats de France cet été. Et puis, comment on se développe en termes de prestations.
Le plan d'eau de Mantes-la-Jolie, je le connais. J'y étais avec l'aviron. Voilà. Donc, à l'époque où il y avait encore, parce que je crois que depuis, il y a une tour, là, un immeuble qui était là.
Avec le Val-Fourré.
Il a été décapité.
Où il y a un peu plus d'algues qu'à Libourne aussi.
Oui, d'accord.
Par contre, Renaud, avant de te remercier, tu vas juste nous rappeler un truc qui va prendre 10 secondes. Je regarde Fred en le disant. Tu nous as donc dit qu'au mois d'avril, il y aurait 3 jeunes femmes qui feraient un championnat de Roninou.
De rafting, oui. De raft, c'est ça. Les filles, elles vont courir à Pau à la rentrée, là, après les vacances scolaires. Du 24 au 26, en 3 jours, elles font les championnats du monde junior de rafting.
Donc si on peut en reparler sur Eau de Radio, on se met en contact avec toi pour voir si...
Avec plaisir.
On peut en reparler ?
Oui, avec plaisir.
Rapport aux résultats, prendre leurs nouvelles.
Merci à vous, merci beaucoup.
En tout cas, ça a été super intéressant d'apprendre des choses sur le canoë-kayak et sur votre club.
Avec plaisir, merci.
Bon, merci en tout cas.